bienvenue à tous. C'est le 10e épisode de notre série consacrée au rock au féminin. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique tout à fait naturelle pour la dernière émission, c'est la musique d'aujourd'hui. Voilà, la scène d'aujourd'hui. Autour de la table, toujours les mêmes personnes très motivées. Christophe,
ouais,
de la recette. Véro est aussi
bonjour.
Parmi nous. Et Timo.
Et Méliore, bien sûr.
On se croirait aux grosses têtes, arrêtez.
Ouais, c'est clair, ça calme. Du coup,
toujours le mot pour rire, Roxette.
Exactement. Et donc, premier artiste à qui on va s'intéresser, c'est Bess Ditto, Timo.
Ouais, Bess Ditto de son vrai nom.
Pas Bess Ditto, Timo, mais Bess Ditto, Timo.
Ah, mais t'es en forme aussi.
T'es en forme, Bess Ditto. On est décidément, on est aux grosses têtes.
C'est clair.
Rien de chanson.
Donc, Bess Ditto de son vrai nom, Marie Bess Patterson, donc auteure, compositrice, interprète américaine. Elle vient d'avoir 36 ans, donc bon anniversaire en retard. C'est la chanteuse du groupe Gossip, si vous ne connaissiez pas son nom. Enfin voilà, c'est
le
la chanteuse
du groupe.
Voilà, le nom du groupe, merci.
Donc c'est une fille quoi, avec les cheveux bien carrés, un peu dodus, dynamique.
Ouais,
très
dynamique.
Très, très dynamique.
Très créative.
Ouais. Très créative.
Avec une voix formidable.
Voilà, donc elle a une enfance difficile. Je crois que c'est important dans son parcours, dans sa biographie. Elle a notamment subi des viols répétés de l'un de ses oncles. Voilà, elle a vraiment souffert le martyr. Voilà, elle parle de fardeau. Je me levais tous les matins avec un fardeau, en sachant que voilà, quand j'allais me coucher, j'avais peur que, etc. Enfin bref, c'est vraiment terrible. Notamment, sa mère également a vécu la même chose, même type de viol, etc., etc. Ça a vraiment visiblement compté dans sa création musicale.
Quelqu'un de très sensible, quoi, du coup.
Voilà, très sensible, et c'est un peu comme beaucoup d'artistes qui ont souffert comme ça. C'est une espèce de soupape de décompression. La musique permet ça, en tout cas. Elle évoque notamment plusieurs dépressions, tentatives de suicide. Enfin, c'est vraiment très, très...
Ouais, bah, dis donc, on était chaud en début d'émission, là. Ça te calme bien.
Ça calme,
Hein. Désolé. Donc, voilà, elle a pris cette énergie négative pour la transmettre en énergie positive, dans sa musique notamment. Artiste provocatrice, elle milite pour l'acceptation du corps et a posé nue dans plusieurs magazines.
Lesquels ?
Je sais pas la référence, excuse-moi.
Paris Match,
ouais,
Voici, Gala.
Des magazines comme ça, je pense, en tout cas, de Stacabi. Elle a refusé un contrat avec Gap aussi, par exemple, arguant que les magasins de la marque ne vendaient pas de vêtements dans sa taille. Son ambition aussi artistique, c'est de brouiller les identités sexuelles en assumant sa sexualité lesbienne et bisexuelle. C'est une personne qui ne connaît pas la langue de bois. Voilà, elle s'indigne encore de devoir justifier sa sexualité ou son genre. Voilà, ben on va écouter directement son morceau. Heavy Cross, morceau...
Un tube.
Ouais, un tube. Et Heavy Cross, c'est la croix lourde. On peut penser à la croix du catholique, c'est ça,
ouais,
porter sa croix.
On porte sa croix, ouais.
Voilà. Plutôt dans ce sens-là. Peut-être.
Allez, c'est parti. Heavy Cross.
It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone and it's cruel. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. We'll be right back.
Voilà, c'était Heavy Cross de Gossip. On va passer à une autre artiste contemporaine.
Oui, plus exactement à deux autres artistes. C'est le groupe. Bah oui, elles sont deux. Hein. Deux jeunes femmes, Julia Lanoé et Carla Pallone du groupe Mansfield Tia, qui a 10 ans d'existence. Entre parenthèses, Julia Lanoé, c'est l'ancienne chanteuse en fait de Sexy Sushi, pour ceux qui connaissent. Voilà, ça envoie du lourd, comme on dit.
Je crois que Christophe est fan.
Yeah.
Ouais, c'est pas mal. Dans les paroles des chansons de Mansfield Tia, il y a peu de rêves, d'illusions. Ouais, elles sont plutôt. C'est assez noir, c'est vrai. En même temps, très réaliste. Pour des jeunes femmes, le monde les dépasse un peu. En même temps, elles se posent la question sur le désengagement des artistes. Voilà, c'est des questions très actuelles et en même temps très anciennes, parce que c'est un peu l'éternelle question de tous les artistes créateurs qui se posent des questions sur le monde qui les entoure. Donc, c'est assez récurrent. On va écouter un petit morceau, Wasting My Time de l'album Seul au bout de 23 secondes. Been wasting my time on my song. Been wasting my time, God, it's too long. Been waiting for death since I was born. Been waiting for death with you, my love. I'm waiting for something to happen. My tears are falling without reason. Wasting My Time du groupe Mansfield Tia. Christophe,
Eh ben, je vais prendre la suite alors.
Ah oui.
Et donc, moi, je voulais vous parler de deux entités, une française et une américaine, qui, sous des aspects très gentils, avec des musiques très conventionnelles, limite enfantines, ont un discours qui bombarde pas mal, qui va au bazooka sur beaucoup de sujets sociologiques. Et donc, je voulais parler de Guédré, pour la, ce qui est de la partie française, et d'un duo qui s'appelle Garfunkel & Oates, qui est américain. Simplement pour faire un petit profil de chacun d'entre eux rapidement, Guédré, immigrée lituanienne, qui s'est très bien intégrée et qui, de par ses rencontres avec Raphaël Mesrahi et puis Laurent Baffy, a réussi à avoir une très belle tribune et à se lancer dans l'humour très décalé. Elle, donc, son look, c'est la robe lituanienne avec des petites boucles d'oreilles genre cerise et puis une façon de parler enfantine avec un petit accent et on lui donne le bon Dieu sans confession. De l'autre côté, nos Garfunkel and Oates ont aussi le profil de deux belles jeunes filles qui présentent très très bien et qui disent des horreurs dans leurs chansons. Et ça, quand on a le plaisir de comprendre l'anglais, pas comme moi, ça scotche un peu. Donc leur sujet de prédilection, c'est pas, bah, y a la gaudriole, hein, le sexe est omniprésent, mais il y a aussi toute une réflexion sur notre société et sur tous les points noirs, notamment quand on est une femme, en matière de viol, d'inceste. Tu viens juste d'en parler avec Gossip. Best Ditto plutôt, l'émancipation des femmes, surtout le niveau des beaufs dans la misère sociale que cela peut engendrer,
les tabous,
la prostitution, la pédophilie, enfin des trucs un peu lourds, notamment Guédré aussi, quand on écoute ses chansons. Je me souviens de l'avoir vu en concert à Vendôme un soir à 20h, un beau soir d'été où toutes les familles venaient nombreuses pour venir voir un spectacle. Il y avait le papa et la maman généralement qui se regardaient droit dans les yeux en disant oh là, je crois que j'ai fait une bêtise là, d'amener les enfants. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant, mais très trash. Et les Américaines, elles sont exactement pareilles. Donc, elles ont fait du théâtre et tout, mais elles y vont vraiment, vraiment au bazooka. Leur point central, c'est donc le sexe, mais aussi, elles ont vocation à aller dans le... Alors, les religieux appellent ça la christianophobie, parce que tout ce qui est religieux, elles y vont, elles font des strikes. Hein. Ce que je vous propose de découvrir, c'est un texte en anglais, donc je vous propose la traduction sur YouTube si vous voulez. La chanson s'appelle Loophole, en français ça s'appelle La Faille, ça parle des jeunes filles et c'est quelque chose d'assez réel, c'est un fait sociologique où les jeunes filles dans les belles pensions américaines qui coûtent beaucoup d'argent ont un rôle de filles vertueuses à tenir, mais cependant la chair prend le dessus et elles ont trouvé des solutions pour pouvoir s'éclater,
s'épanouir,
s'épanouir d'une certaine forme, mais tout en gardant leur virginité. Donc là ça sera un extrait de Garfunkel and Oates.
Do you guys know what God's loophole is? Does
anybody?
No. Anybody? It's when girls stay virgins till they're married but have anal sex instead.
Which we thought was an interesting topic, so we wrote a song about it.
Yeah.
All my life, I've been good, do what my mom and dad and God say I should. Go to church and Bible school to live by God's rule. So whatever people tell me that the Bible tells me, I will do. Walk the halls of high school with my purity ring. Unlike those other girls, I got my morals in check. It was easy to do till I got a boyfriend. And pardon my French, but he's cute as heck. And I made a pact to keep my hymen intact. And Jesus and I are tight. Never learned about the birds and bees. I was taught to keep an aspirin in between my knees. Cause the Bible says premarital sex is wrong. But Jason says that guys can't wait that long. And I don't want to lose him to someone who'll do him. I need to figure something out. Well, there's a loophole in the scripture that works really well. So I can get him off without going to hell. It's my Hail Mary full of grace. In Jesus' name we go to fifth base. Oh, thank you for making me holy, and thank you for giving me holes to choose from. And since I'm not a godless whore, he'll have to come in the back door. Therefore, fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of a throbbing rationalization. It's just between you and me, cause everyone knows it's the sex that God can't see. hard to be as pure as me, to resist the urge to lose my vaginal virginity, to wait until my marriage bed, to give my husband my unsullied maiden head. So take your cock out, shove it in my ass, fuck me until you come. Oops, I mean, let's join our souls and unite our bodies and fly with the wings of God. Whatever you do, don't touch my clitoris. If you ring Satan's doorbell, God can't ignore this. And no prophylactics when you put it in, 'cause birth control's for sluts and it's a sin. I've emptied my bowels and laid out the towels, I'm ready for romance. Now I'm praying to the power that's the highest, but of all of my holes, this one's the driest. But we can't procreate if we anally copulate, and God's okay with sodomy, but only if you're straight. And I'm staying pure no matter what, so I'm okay with everything but, everything but, everything but. Whoa, fuck me in the ass, 'cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of a rock hard rationalization. It's just between you and me, 'cause everyone knows it's the sex that God can't see. I do whatever the Bible tells me to, except for the parts that I choose to ignore, because they're unrealistic and inconvenient, but the rest I live by for sure. So let's not talk about how the good book bans shellfish, polyester, and divorce, and how it condones slavery and killing gays, because those parts don't count, of course. Let's cherry pick the part about losing my cherry and mine up for ambiguities and omissions to circumvent any real sacrifice, but still feel pious in my arbitrary parroted position. And don't you dare question my convictions, and don't look closely at the contradictions. Focus on the sacrificial crucifixion and have faith in its complete jurisdiction. It's the only way to measure if you're good or not. And when in a debate, just say to have faith, because when up against logic, it's the only card you've got. So close your eyes, take a deep breath, and fuck me in the ass, because I love Jesus. Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of an irrational rationalization.
Ben voilà, c'était Garfunkel and Oates qui chantaient le titre Loophole. Et là, on peut voir que leur chantilly ritournelle nous emmène très très loin des provocations punk des années 76. Hein,
ouais, on n'est pas
musicalement,
sur les mêmes
voilà, leur texte dénonce vraiment beaucoup de choses sur les méfaits de notre société. Et la provocation, pour certains, elle est quand même très très puissante.
Ouais, ben ça c'est clair. Mais en plus, tu peux te dire que tu peux avoir des gamines qui écoutent ça nananinana, dans la chambre à fond, là, tu vois, avec le lit rose, les rideaux roses et la peluche rose.
Ouais, des gamins qui sont pas anglophones.
Ah oui, ouais, non, mais bien sûr, évidemment. Évidemment. Ouais,
alors, parce que n'hésitez pas, coup de cœur, si vous avez quelqu'un qui comprend pas l'anglais, qui a des gamins.
N'hésitez pas.
Non, mais ils ont le sens de la mélodie aussi.
Ouais,
hein,
c'est ça. Ouais.
Bah, oui. Et donc, c'est ce duo-là, notamment, ne reste pas sur la gentille petite chanson. Ils s'amusent aussi à faire des chansons hip-hop. Mais bon, à chaque fois, tu vois par exemple un petit canard jaune qui arrive dans le champ. Elles sont dans leur bain avec leur brassard pour pas se noyer. Enfin bon, il y a plein de trucs qui sont assez significatifs. Ce qui nous permet de pouvoir enchaîner sur un sujet beaucoup plus sérieux dans la musique actuelle avec Pidgey Harvey et Melior.
Ouais.
Là, on a une mastodonte.
Pidgey Harvey ou Melior?
Les deux.
Exactement, ouais, avec la Britannique qui a 48 ans cette année, donc elle est un peu plus âgée que les deux gamines qu'on vient d'entendre. Ouais. Là. Non, mais c'est très bien. Elles ont... Bon, du coup, voilà, Pidgey Harvey, elle, c'était Polly Jean Harvey. C'est une chanteuse, guitariste, saxophoniste. Sa carrière débute véritablement en 88, mais elle, c'est quand même une artiste dans l'âme, donc elle continue à étudier la sculpture, le dessin, etc. Ce qui lui permettra plus tard de réellement maîtriser son image. Notamment, elle a un contrôle très très strict sur les pochettes des albums, etc. Et donc, elle fait passer le message qu'elle veut au niveau peut-être comme symbole de l'image, etc. Elle est plutôt douée. Donc, quelques années plus tard, en 91, elle forme un groupe qui avait un nom précis, mais plus tard, en fait, ce groupe s'appellera Pidgey Harvey. Donc, on voit bien que c'est elle qui mène la barque de ce groupe-là. Et donc, là, elle chante, elle y joue de la guitare. Sur son premier album, elle est en petite tenue, je crois, culotte, petit débardeur, quelque chose comme ça. Donc, on se dit, bon, bah.
Elle est en bikini.
Elle est en bikini, exactement. Ouais, ouais, peut-être qu'elle avait, elle prenait un cours de crawl. Peut-être qu'elle sortait d'un cours. Ouais, exactement.
Déjà, t'as parlé de brassard tout à l'heure. Il faut que tu cales, forcément.
Ouais, c'est vrai. La champ lexical.
Formation aux professionnels. Ouais.
Elle est en petite tenue, donc on se dit forcément il y aura quelque chose de féminin dans cet album, voire de féministe, en fait, c'est le premier truc qui te saute aux yeux. Et donc, dans ses chansons, elle met d'un côté en avant, en fait, la condition naturelle de la femme comme l'incarnation de la fécondité, voilà, la personne qui va reproduire, etc. Ouais. Et de l'autre côté, en fait, elle met en avant aussi la femme comme objet de luxure, etc. Enfin, plutôt l'image de la femme donnée par l'homme en lui-même, quoi. Ouais. Pas l'homme avec un grand H, l'homme avec un petit H, hein, là, pour le coup. Et après, donc, elle s'attaque aussi aux hommes et elle se moque de l'impuissance masculine. Voilà, elle renverse un peu le truc en disant dans certaines chansons, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Elle rassure en fait, c'est voilà, le mec a le droit d'être faible, mais elle se moque complètement de lui dans ce genre de faiblesse.
Quand
voilà.
Quand l'homme est faible.
Exactement, donc elle renverse en fait la traditionnelle domination masculine dans les rapports amoureux et là en l'occurrence sexuels.
C'est un thème qu'on pouvait retrouver dans certaines chansons des blueswomen des années 20-30. Hein,
ouais, exactement.
On boucle la boucle.
Ouais,
exactement. Ouais. Donc du coup, surtout, n'hésitez pas à aller sur studiozef.fr, podcaster les 10 émissions de cette super série sur le rock au féminin.
Et si vous les écoutez toutes les unes après les autres, vous vous apercevrez qu'il y a une certaine unité de ton.
Tu veux dire contrairement aux apparences?
Et donc juste, il y a vraiment un album déterminant, c'est le dernier notamment, c'est celui auquel moi je me suis intéressée. Un album qui est sorti l'année dernière, là,
en 2016
exactement. Elle a décidé de voyager, donc elle est allée au Kosovo, en Afghanistan et à Washington aussi aux États-Unis. Elle a bossé un peu comme une journaliste, elle a pris des notes sur ce qu'elle voyait, etc. Et son dernier album, il est véritablement influencé par ces voyages-là. Et notamment, on va écouter un titre qui s'appelle The Ministry of Social Affairs, qui vient de l'album qui s'appelle The Hope. Alors excusez-moi, hein, c'est un peu The Hope. Six Demolition Project. Ce qu'elle dénonce dans ce morceau-là, c'est des politiques à Washington qui essaient de nettoyer les quartiers pauvres en enlevant les pauvres, les drogués, etc., pour y mettre des bobos et pour donner une belle image.
La gentrification.
Voilà, pour donner une belle image de la ville. Il y a eu un écho de cet album-là ensuite aux États-Unis parce qu'elle est anglaise. Bah, les politiques là-bas à Washington, ils n'étaient pas très très contents de cet album-là. Donc The Ministry of Social Affairs.
And empty and a pregnant head.
PJ Harvey. Cette série hein, de 10 épisodes consacrés au rock au féminin s'achève. Tout ça, c'est retrouvable sur studiozef.fr. Évidemment, vous pouvez vous podcaster les 10 épisodes. Vous partez en vacances, etc. C'est toujours agréable de découvrir des choses. Et ben, merci à tous alors, hein, d'avoir participé à cette émission. Christophe de la Roxette était présent, évidemment. Véro, toujours
ouais,
là.
Merci à vous. Hein. Moi, j'ai appris des tas de trucs, c'était passionnant.
C'est clair, je suis bien d'accord. Ouais. Avis partagé. Et puis on remercie.
Merci Melior.
Ouais, ah oui, bah merci Melior.
Merci, et
merci
Guillaume.
Merci Guillaume pour la technique.
Guillaume à la technique.
Bah oui. À la technique.
On l'a pas beaucoup entendu.
Et merci,
mais...
merci Alexandre.
Ah, pour le montage. Voilà, vous avez le générique en entier là. Et merci Ben.
Merci Ben.
Qui aura le dernier mot.
Qui aura le dernier, comme d'habitude.
Ouais. Et derrière, un dernier mot à propos d'un ouvrage dont on s'est largement inspiré pour préparer ces 10 émissions. C'est le livre Respect, le rock au féminin de Steven Jezo Vanier, voilà, aux éditions Le Mot et le Reste. Très intéressant cet ouvrage.
Tout à fait.
Allez Ben, c'est à toi. Hein.
Toujours avec nous les filles, toujours en compagnie de Peggy qui s'intéresse à ce que l'on va parler maintenant. Donc ça l'intéresse particulièrement parce que l'attaque Soro, ça s'intéresse aux filles. Et Peggy, eh ben c'est une fille. Et donc Peggy, elle va nous écouter sur cette fameuse taxe rose. Qu'est-ce que c'est que la taxe rose? Alors la taxe rose, ou plus communément appelée « woman tax », ça désigne un surcoût sur les produits spécifiquement destinés aux femmes. Alors ces écarts, fruits d'un marketing genré, sont justifiés de deux manières. D'abord par des différences organiques. On estime que les femmes ont toutes des cheveux longs alors que les hommes portent des cheveux courts. Que les femmes ont la peau plus sensible que celle des hommes. Ensuite, par des différences de consommation. On estime que les femmes sont prêtes à dépenser plus d'argent que les hommes parce qu'elles prennent plus soin d'elles. En somme, on se base sur des clichés déguisés en grande tendance pour proposer deux produits identiques, au packaging et au prix différent. Élaborer deux stratégies marketing distinctes et ainsi faire croire aux uns et aux autres qu'il leur faut plutôt celui-ci et pas celui d'à côté. En se baladant dans les rayons, on se retrouve donc face à des produits qui utilisent des stéréotypes sexistes et les alimentent. La brosse à dents pour monsieur, bleu technique innovante, et celle de madame, strictement la même mais rose. Tout en douceur, délicate, faite pour des bouches plus petites, des femmes. Dans la même lignée, on a le stylo pour femmes, le GPS pour femmes, le vin pour femmes. Le moins qu'on puisse dire, c'est le marketing genré rapporte. Dans les rayons des magasins de jouets, par exemple, l'offre étant beaucoup moins segmentée. Il y a 20 ans, aujourd'hui, il n'y a qu'un côté, le vélo bleu avec Spider-Man, et de l'autre côté, le vélo rose avec Barbie. Les parents ne peuvent pas refiler le vélo rose à l'aîné du petit dernier, parce que c'est bien connu, le rose c'est pour les filles. Tout doit donc potentiellement être acheté en double. C'est pareil pour les adultes, en s'adressant de manière différenciée aux hommes et aux femmes, on multiplie le besoin d'achat et les stéréotypes puants. Bon les filles, toujours présents là, donc c'est l'heure de nous quitter, donc avec Peggy, un peu triste. Je voulais vous apporter quelques précisions sur tout ce qui était raconté, donc il y a des expériences personnelles, toi il y a des coups de cœur, des personnes qui ont pu passer dans ma vie, entrecoupées d'actualités malheureusement. Il y a des ouvrages que j'aimerais citer, notamment « Liberté, égalité, sexualité » de Marc Lemonnier, paru récemment à la Musardise. Il y a eu un deuxième ouvrage aussi, c'est « Les gros mots », c'est le joyeux abécédaire moderne du féminisme par Clara Edgar Rose aux éditions Hugo Doc. Et il y a eu surtout un ouvrage fabuleux qui s'appelle donc Mauvaise fille, incorrigible et rebelle par Véronique Blanchard et David Niguet aux éditions Textuelles. Le moment est venu de nous dire au revoir, de remercier Studio Zef hein, qui a bien voulu nous recevoir, de remercier Peggy. Peggy, qui a bien voulu rester avec nous durant toutes ces heures. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur StudioZef91.1 ou à podcaster sur StudioZef.fr. À très bientôt.